Là, ben, on va reprendre le fil. Donc, on a quatre interventions, les deux à venir et puis encore deux autres sur le thème des compétences. On utilisera de toute façon, pour terminer à 15h, l'essentiel du temps qui était prévu en synthèse, puisqu'on vous le dira tout à l'heure, on pense procéder un tout petit peu différemment. Donc là, on continue à dérouler l'idée qu'il y a des choses qui ont commencé de se passer dans nos établissements, qu'il faut qu'on les montre, qu'on les mutualise. Et là, un peu comme sur les systèmes d'information, un peu comme tout à l'heure sur la planification territoriale, il y a des choses qu'on doit pouvoir modéliser. Et là, donc, on va être à travers les deux sujets sur les locaux, sur les plateaux de soins ambulatoires, avec deux approches qui sont un peu différentes. Est-ce qu'on est capable de produire quelque chose de différent, je dirais, du CMP, CATTP, hôpital de jour, souvent séparés et au mieux rapprochés dans des locaux sans qu'il y ait forcément beaucoup de logique fonctionnelle entre les uns et les autres. Donc on imagine qu'il y a des pistes à suivre, mais qu'à ce moment-là, les méthodes de travail pour concevoir les locaux ne partent plus des travaux et ne partent plus du programme de besoin analysé comme une demande de mètre carré. Donc je m'arrête là, mais c'était un peu le fil conducteur sur cette partie.
Bonjour, je m'appelle Nicole Chavalard, je suis coordonnatrice générale des soins au centre hospitalier Alpes-Isère.
Bonjour, je m'appelle Mariana da Fonseca, je suis architecte programmiste.
Voilà, donc on va parler à deux voix. Autant tout à l'heure, l'équipe précédente, enfin dans la matinée, a introduit un géographe pour parler d'une approche un peu novatrice et différente. Là, on a utiliser une autre approche qui nous permet d'aller d'une organisation vers une autre organisation. Donc on va parler d'une plateforme de soins ambulatoires qu'on doit créer prochainement, qui a une vocation territoriale, et on a utilisé une approche fonctionnelle. Donc cette construction, cette structure sera pour deux filières, la filière de réhabilitation et la filière d'addictologie. Il faut savoir que donc j'ai mis. Oula, ça va vite. Donc voilà, vous avez un peu les structures qu'il y aura selon les différentes filières. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la filière addictologie, il faut rajouter les équipes de liaison, bien sûr. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la filière, elle est constituée aussi avec le CHU, puisque nous avons l'unité d'hospitalisation complète dans l'établissement de psychiatrie, l'hôpital de jour, et que le reste de la filière, notamment la recherche, est faite avec le CHU, que le projet médical de la structure, notamment du projet d'hôpital de jour, a été fait conjointement par les responsables CHU et CHAI. Et la filière d'addictologie est la seule filière qui est adossée à une unité d'hospitalisation complète, le reste n'étant que de l'ambulatoire. Alors pourquoi nous avons réalisé cette construction qui mêle ces deux filières? D'une part parce que l'ensemble de ces filières existent déjà, mais sont dans des structures complètement éclatées et très dispersées sur le site, et voire même à l'extérieur du site. Alors pourquoi nous avons travaillé aussi, on a regroupé ces deux filières, c'est parce que ces deux filières travaillent déjà ensemble, en tous les cas font partie du même pôle depuis de nombreuses années, et ces deux filières sont articulées toutes les deux sur un travail en réseau, ont des modalités de travail qui sont identiques. Et elles travaillent avec les autres établissements, les secteurs médico-sociaux et sociaux, bien sûr. Alors aussi, ce qui a été constaté pour les deux filières, c'est qu'il y avait énormément, de plus en plus, de patients très jeunes qui intègrent ces filières et qui ne souhaitent pas venir dans le site de l'hôpital. Alors bien souvent, ce sont des populations qui n'ont jamais eu de contact avec l'institution et qui du coup ont un peu de frein et de résistance pour venir sur le site. Alors quels sont les enjeux de cette construction et de cette nouvelle création? C'est donc bien sûr de décloisonner la psychiatrie et de l'articuler avec les différents partenaires du territoire qui existent déjà, avec lesquels on travaille déjà, mais c'est d'amplifier cette articulation. C'est de constituer un centre référence pour ces deux filières. Et puis aussi, on est dans la perspective de créer un pôle inter-établissement, donc qui inter-établissement entre le CHU et le CHAI, tout au moins pour l'une des filières. Voilà. Donc on s'est rendu compte que les deux filières ont des missions communes, quelles que soient les structures qui sont au sein de chacune des filières. Donc les missions essentielles et importantes sont bien sûr la prévention, les diagnostics spécialisés, le travail en réseau, la recherche, la formation et l'enseignement. Alors pourquoi nous avons souhaité travailler avec un binôme soignant et architecte ? Donc d'une part parce qu'on a déjà une première expérience dans le cadre de la reconstruction de notre hôpital. On a élaboré un programme fonctionnel précédemment avant l'écriture du cahier des charges. C'est-à-dire que l'architecte programmiste nous a aidés à rédiger ce cahier des charges en traduisant notre langage soignant, technique, en le traduisant en langage d'architecte et d'autres spécialistes. Donc en plus, ça nous apporte un regard croisé, soignant, architecte, en amont donc de cette réalisation. Et l'ensemble de ce questionnement et de cette réflexion donc, nous aide bien sûr à prendre beaucoup de recul, à se distancier par rapport à le quotidien, à ce qu'on fait habituellement. Et ça nous aide à prendre un recul tel et avoir une vision beaucoup plus globale et complètement différente. Donc l'échange, l'interaction, l'échange des pratiques sur le soin, sur ce qui est fait, les questionnements de l'architecte pour qu'elle puisse comprendre comment ça fonctionne, font que chacun repense son soin un peu différemment et il y a une sorte d'interpénétration à la fois des pratiques et des interactions suggèrent ou créent de l'inventivité. C'est-à-dire qu'après, on arrive à générer de nouvelles compétences, mais surtout de nouvelles organisations. Alors, le processus. Donc, dans un premier temps, on a constitué un groupe de pilotage qui comprend les responsables de toutes les structures qui étaient citées, quasiment toutes les structures citées dans les deux filières, donc y compris le professeur d'addictologie du CHU qui a participé à tous nos groupes de travail, la présidente et le responsable aussi du réseau de santé REPSI, donc de handicap. Les responsables d'addictologie et de réhabilitation de l'établissement. Ensuite, ce groupe de pilotage s'est réuni à plusieurs reprises. Et la première étape, ou la deuxième étape, a été de les faire s'exprimer chacun sur leur philosophie du soin.
Ensuite, la troisième étape consiste à réaliser la carte d'identité du projet avec le groupe de pilotage. Et à la fois à l'intérieur des filières, en mettant en place des groupes focus pour interpeller en fait les patients et les soignants sur l'attente de cette plateforme. La quatrième étape, c'est la traduction des fonctionnalités exprimées en schéma. Et la cinquième étape, c'est la finalisation du projet par la rédaction, premièrement, de l'organisation des soins et ensuite des attentes en matière d'architecture. On part bien de l'organisation du soin pour écrire de l'architecture.
Et alors l'importance de cette rédaction qui se fait en continu et qui s'alimente en continu fait qu'on voudrait garder une trace écrite de ce sens et de cette réflexion pour que lorsque vraiment le bâtiment sera réalisé, comme ça prend plusieurs années, on puisse pouvoir retransmettre quel est le sens, quelle a été notre réflexion, parce que très souvent, ce sont de nouvelles équipes, ce sont de nouveaux professionnels qui ne comprennent pas pourquoi ça a été fait de telle et telle façon et qui re-questionnent. On n'est pas éternels les uns et les autres. Dans 3 ans, 4 ans, j'y serai plus pour expliquer et probablement que les responsables des structures non plus. Alors, donc, en termes de philosophie du soin, donc, ce qui a été perçu et commun à chacune des filières, ça a été bien sûr les missions qui sont communes, mais aussi pour les deux filières, la prise en compte des troubles cognitifs, Que ce soit en addictologie ou bien sûr en réhabilitation, les patients présentent des troubles cognitifs et chacun essaye de les prendre en compte, notamment, alors plus la réhabilitation qui a une antériorité et plus de compétences et de connaissances, mais l'addictologie commence à travailler dans cette, dans ce sens-là. On a aussi le fait qu'ils développent des soins intégrés et des soins en réseau. Ils ont l'habitude de mettre le patient acteur dans leur prise en charge. Le patient participe et acteur dans son projet de soins, mais il participe aussi à l'élaboration de la définition des objectifs de son projet de soins. Donc cette habitude-là est ancrée. On s'est rendu compte aussi que le patient peut avoir besoin des deux filières. Pendant son parcours, il peut être amené à avoir des troubles d'addiction et forcément, probablement après de la réhabilitation. Et inversement, on peut avoir quelqu'un qui est en réhabilitation et qui peut présenter une addiction à la toxicomanie ou à autre chose. Et donc, il peut y avoir un besoin pour le même patient des deux filières. Alors aussi, pour les deux filières, enfin les professionnels des deux filières, l'important, c'est que le patient soit un patient citoyen, un patient dans lequel on le laisse dans son environnement social, qui reste dans son milieu. On travaille dans le milieu du patient et avec les représentants du milieu et les partenaires du milieu du patient, de son environnement. On maintient le plus possible le lien social, pour qu'ils puissent être complètement intégrés dans la cité. Et alors, le parcours de soins dans le bâtiment, pardon, là, c'est pas à l'extérieur, mais dans le bâtiment, le parcours de soins pour les deux filières commence par l'accueil. L'accueil a une place prépondérante et importante lorsque ces patients-là rentrent dans le bâtiment. Alors notamment, on n'a pas tout lu, mais il y a les centres experts de schizophrénie et d'Asperger. Donc le repère a un sens essentiel.
Donc là, c'est voilà comment se présente en fait la carte d'identité. L'objectif de la carte d'identité, c'est d'identifier les différents domaines d'activité, les réseaux et les partenariats. C'est-à-dire qu'elle se développe en trois volets, et donc ça c'est une proposition que je fais pour comprendre en fait qu'est-ce que c'est que ces soins ambulatoires. Donc j'interroge le réseau relationnel, c'est-à-dire les structures, les acteurs professionnels. J'essaye d'identifier les domaines d'activité, donc pour ce qui nous concerne c'est notamment la réhabilitation, l'addictologie, mais peut-être il y a autre chose. Et puis d'identifier en fait les fonctions qui seraient communes et donc transversales. À partir du moment où on réunit en fait des filières et des activités, c'est intéressant de se poser la question de ce qui peut être développé à partir de ce rassemblement. Tout au long de nos rencontres, de nos échanges, on améliore et on réactualise la carte parce que ça s'affine au fur et à mesure du travail. À partir de cette carte, donc, moi, je demande qu'on décrive un peu les activités et c'est une synthèse qu'on va vous présenter ensuite sur les activités.
Alors, donc, de décrire les activités, alors de décrire à l'architecte les activités et les organisations, ça a suscité alors des questionnements de la part de l'architecte, mais surtout, ça a permis à chaque membre des deux filières de connaître leur activité spécifique, mais plus en profondeur, plus affinée, bien sûr. Et ça a mis en évidence des fonctionnements communs, des activités similaires. Donc, du coup, il y a eu une forme d'enrichissement mutuel, d'évolution. À partir de là, les équipes se sont dit, mais finalement, vous avez des compétences qu'on n'a pas complètement, et inversement. Et si on mutualisait et on faisait du transfert de compétences? Alors donc, du coup, à partir du moment où on dit on va faire du transfert de compétences ou mutualiser des compétences, ça veut dire qu'après, on dit, mais dans le fond, on a des activités équivalentes. Et si on mutualisait aussi nos activités, voire nos locaux? Donc, il a fallu, à partir de là, repenser le schéma, le fonctionnement et les organisations.
Donc là, c'est un exemple de la réactualisation de la carte où on peut voir les deux filières identifiées avec leurs spécificités et ensuite au milieu les points communs. Donc à partir en fait de ce qui est décrit, ça s'est traduit en espaces d'activité, c'est-à-dire que les activités deviennent des espaces. À partir de ces espaces, on va arriver à des surfaces et c'est comme ça qu'on va commencer après à construire le plateau et à l'imaginer. Mais donc, pour pouvoir aller plus loin, il faut effectivement dégager des principes d'organisation de départ. C'est-à-dire parler des liaisons, des proximités souhaitées, etc.
Donc, les équipes ont défini les principes d'organisation qui vont orienter leurs choix futurs en termes de fonctionnalité. Donc, les principes qui ont été retenus dans notre travail ont été les liaisons internes et l'accessibilité, donc un point fort. Ensuite, de favoriser les espaces de rencontre entre les professionnels, de concertation, d'échange. L'idée que le point d'accueil soit centralisé, puisqu'il a du sens par rapport à certaines populations. Et puis, bien sûr, que la plateforme soit sur le site de la ville.
Donc, à partir de là, mon travail, dans un deuxième temps, est de faire résonner le groupe en 3D, c'est-à-dire dans la perspective d'une construction. Donc, pour mesurer le seuil, finalement, de tolérance de l'organisation imaginée. Souvent, quand on est dans la réunion, on parle, et donc on parle de liaison, et on a une vision plutôt horizontale des choses. Quand on se projette sur de la construction, il faut qu'on puisse aussi imaginer des choses qui se stratifient. Donc, on est parti sur 3 hypothèses. J'ai proposé 3 hypothèses de stratification. Une organisation sur un niveau, sur R+1 et sur R+2. Le groupe réagit et c'est cet échange-là qui nous amène ensuite à une optique qui modifie l'organisation, mais qui semble adaptée aux attentes de ce plateau. Donc là, on a le premier schéma où en fait donc c'est sur un seul niveau. Et ce qu'on va dire en synthèse, c'est que sur le plan foncier, on interroge le plan foncier puisqu'on veut se rapprocher de la ville. Quand on est sur des masses importantes, plus la surface à construire est importante, moins on s'implante en ville. Il faut prendre compte du tissu urbain. Et ça, c'est la première critique. Donc on a, pour rapidement présenter, on a les filières qui sont représentées en bleu clair et bleu foncé. Et la partie centrale, en fait, c'est les activités communes, les espaces qui sont partagés. On a l'accueil et puis ensuite, ça irrigue l'ensemble des activités. Sur le plan de l'organisation, ce qui a été critiqué, c'est que finalement, les activités de filière ne sont pas tant en liaison que ça. Que ça ne suffit pas d'avoir des espaces à l'intérieur pour créer du lien. Ça, c'était une critique des équipes. Sur le deuxième, on a travaillé sur le deuxième schéma. Alors, celui-là, c'est R+1. Donc, toujours pareil, les activités en bleu, les filières en bleu clair et bleu foncé. Et puis, j'ai subdivisé, en fait, les espaces communs qui sont représentés en jaune. Cette représentation sur le plan foncier est bien meilleure puisqu'on réduit l'emprise, on la subdivise par deux. Donc, on se rapproche d'un tènement et du tissu urbain de la ville. Par contre, au niveau de l'organisation qui est proposée, on subdivise la filière addictologie, on sépare la filière réhab et la filière addictologie, et on n'est toujours pas dans le lien.
Donc, du coup, les équipes ont proposé de rassembler, de rapprocher les locaux concernant, enfin, en tous les cas, les espaces concernant les deux filières, de les mettre côte à côte au rez-de-chaussée, au niveau de l'accueil, pour qu'on ait vraiment ce point central, les spécificités, les locaux supérieurs n'étant que les pièces et les activités qui seront communes et partagées, mais on sait que quand on est dans une activité, c'est pas le moment où on va pouvoir discuter avec celui qui aura l'activité après et autres. Par contre, d'être en bas, si le patient est commun, on pourra éventuellement échanger entre deux consultations, échanger plus facilement parce qu'on sera au même niveau. Donc l'addiction et la réhabilitation. Donc ça rend, pour l'instant, c'est le schéma qui correspond le plus et qui répond le plus au principe d'organisation.
Alors j'ajouterais que du coup, dans cette réflexion, ce qui est devenu central, c'est la position du secrétariat. Parce que du coup, il devient essayer. Il devient un pôle de secrétariat, et ça veut dire aussi qu'au niveau de l'accueil, il y a toujours quelqu'un. L'idée, c'est vraiment d'avoir, si on dit qu'on est dans un raisonnement où l'accueil est au centre de la réflexion, ça veut dire que quelque part, on est aussi sur un système de rayonnement, et que finalement, quand on arrive dans une structure, il faut qu'on soit face à quelqu'un qui nous oriente et qui irrigue vers les différents espaces.
Et on a laissé en rez-de-chaussée les espaces de socialisation, de restauration et les locaux spécifiques aussi de détente des patients, pour qu'il y ait aussi de la vie, y compris pour les personnes qui viennent uniquement en consultation.
Troisième schéma. Donc là, on est allé jusqu'à une proposition de R plus 2. Pourquoi ? Parce qu'on optimise encore plus, on se rapproche de la ville, mais au-delà de ça, on peut même commencer à imaginer de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on peut exploiter un immobilier existant en ville, stratifié, puisqu'on a une emprise foncière moins importante. La critique qui est faite au niveau de l'organisation des soins est la même, c'est-à-dire que dans ma proposition, j'ai toujours séparé les filières addictologie et réhab, et puis par contre partagé sur trois niveaux l'ensemble des activités.
Donc au cours de la discussion, les équipes ont priorisé le regroupement au premier étage des spécificités addictologie et réhabilitation. Ce qui est resté au premier niveau, là, ce sont tout ce qui concerne les consultations, les centres experts schizophrénie et Asperger et les espaces de consultation pour l'addictologie, plutôt. Donc, en gardant l'accueil au rez-de-chaussée, le point central, comme accueil. Par contre, avec un inconvénient là, c'est qu'en fait, on est obligé de dédoubler les secrétariats, ce qui veut dire que ça va mobiliser plus de personnel pour avoir un accueil permanent au rez-de-chaussée. Par contre, on garde le même principe. Alors, on n'a pas mis les locaux intercalés entre les deux, parce qu'en fait, les locaux d'activité, on y va pendant le temps d'activité et on revient. Donc, l'équipe a préféré le mettre à l'étage, au dernier étage. Et là, on a laissé aussi les activités de restauration, de socialisation. Donc, l'intérêt pour le territoire de ce travail, c'est donc, bien sûr, une mise à disposition d'un dispositif de soins qui organise la complémentarité des deux filières au bénéfice du patient. Un décloisonnement des structures et des logiques de culture, sanitaire, médico-sociale, sociale. Donc, un transfert d'informations et de compétences, à la fois pour les professionnels partenaires, puisqu'il y a beaucoup de personnes de réseau, d'associations, etc., qui vont travailler avec ces équipes, pour le patient et son environnement. Et puis, au niveau de la recherche, on est en lien direct avec le CHU, puisqu'ils vont pouvoir nous apporter leurs compétences, et puis au niveau des centres experts, bien sûr. Et ça permet aussi de repositionner l'hôpital comme un recours exceptionnel à l'hospitalisation, c'est-à-dire que cette structure est vraiment positionnée et complètement ancrée dans la cité et sur le territoire, et elle pourra articuler avec les différents partenaires du terrain.
Alors, en synthèse, un dernier schéma qui veut dire que finalement cette plateforme, en tout cas, s'adresse à la fois aux patients et aux professionnels. Aux patients en favorisant l'accessibilité aux soins du patient dans son environnement. Aux professionnels par la mise en commun des savoir-faire qui renforce en fait la complémentarité des partenaires. Par la volonté d'avoir un espace de ressources et de recherche pour l'ensemble des professionnels. Et puis enfin, par la transmission des connaissances, par le biais de la formation et de l'enseignement. Le principe en fait spatial qui a été retenu, c'est le rayonnement, c'est-à-dire que le point central, c'est l'accueil. Donc une forte mutualisation par rapport à ce point-là. Il traduit d'une certaine manière aussi la volonté d'ouvrir sur le territoire en proposant un outil de référence et de ressources pour le territoire. C'est les objectifs qui sont mis en place par le plateau.
Alors donc, nous vous remercions pour votre attention, mais surtout, on remercie aussi le groupe de travail qui nous a beaucoup aidés, avec lequel on a pris beaucoup de plaisir à cheminer dans ce changement d'organisation, de travail et de réflexion.
Je remercie aussi particulièrement Pascal Mariotti de m'avoir invité à venir participer à ces journées. Merci.